C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Des millions. Des millions, vous êtes charmant, mais.
The name's Bond. James Bond.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau thème ciné. Je suis toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Et de Melvin. Bonjour Melvin.
Bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler des biopics au cinéma. Alors les biopics, ils ont une importance absolument énorme dans le paysage cinématographique, hein, et ça depuis très longtemps, nous allons en parler. Mais du coup, je commence cette émission avec la fameuse question, les gars, pour vous, un biopic, ça vous évoque quoi exactement ?
Bon, alors je vais commencer par... je sais que Melvin va apporter un peu son grain. Je vais commencer par définir un peu ce que c'est un biopic. Donc c'est un film ou un court-métrage, enfin une œuvre cinématographique qui va retracer la vie ou une partie de la vie d'une personne célèbre ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, c'est de fournir une œuvre biographique d'une personne, comme je l'ai dit, sur une toute petite partie de sa vie ou sur toute sa vie entière. Voilà.
À travers le cinéma, le prisme voilà. Du cinéma.
C'est ça.
Ce qui se rapproche de la biographie en livre, mais adapté, quoi.
C'est ça. Bah, c'est des styles assez différents. On peut dire que quand même la biographie ça date pas d'hier. Hein. Dès le début du cinéma, hein, on a notre Georges Méliès national qui décide de faire un biopic de Cléopâtre en, je vous le donne en mille, 1899. C'est bon. Bon, Cléopâtre, hein, c'est maintenant devenu has-been, hein, bien sûr. Mais
Et me fie-toi, ils en font un l'année prochaine.
Ah ouais?
Avec c'est Gal Gadot, je crois.
Ok. Bon. Ok, bah pourquoi pas, hein. Faut voir. Mais effectivement, l'histoire des biopics, ça s'est surtout concentré d'abord autour des personnages les plus connus. Hein. On a eu évidemment déjà Cléopâtre, donc aussi en 1934, et sa longue adaptation en 4 heures de 1963, oui. Mais on a aussi des chefs d'État connus comme... Henri II, Plantagenet avec Beckett ou Un lion en hiver dans les années 60. Donc c'est les grandes figures royales de l'époque. On a eu évidemment plein de fois Jeanne d'Arc. On a eu des Jules César, bien sûr. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais la VHS Jules et Cléopâtre, bien sûr. faut bien un début à tout. Et c'est plus au cours de l'histoire, quand il y avait de moins en moins de persos les plus connus au monde... qui ont tous déjà eu une adaptation cinématographique, bah on se concentre petit à petit sur des personnes un peu moins connues, mais qui sont tout aussi intéressants.
Oui, on sait que le genre a eu un coup de mou dans les années 60, et puis a eu un regain de popularité quand même dans les années 90 et 2000, et même au début des années 2010, donc comme... J'ai sur mes notes parce que j'ai fait mes devoirs. Non, mais on a par exemple La Môme en 2007 avec Marion Cotillard. On a J. Edgar avec DiCaprio, oui. Et donc là, comme je vois, on a aussi La Dame de Fer avec Meryl Streep, c'est ça, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Et bon, voilà. Et puis après, en 2010, ça explose avec The Social Network, Imitation Game. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ben, Loot Wall Street. Enfin voilà, même là comme je suis en train de voir Invictus, tout ça, enfin bref, ça a eu vraiment un gros regain de popularité, et ça a été c'est toujours d'actualité. Il y a encore des films de biopic aujourd'hui, je pense à Elvis qui est sorti il y a pas très longtemps. Et enfin voilà, c'est un genre qui est même très à la mode, et qui possède une bonne popularité auprès du public.
Mais c'est assez intemporel dans sa manière d'être fait aussi. Comme c'est des films, ça se rapproche parfois du film historique, c'est des faits, donc ça ne vieillit pas. C'est l'avantage.
C'est ça, tu disais que ça avait un regain de popularité, mais en vrai, je pense que ça a toujours été très populaire au cinéma, parce que y a une certaine, entre guillemets, facilité d'écriture, c'est-à-dire que...
J'y pense aussi.
C'est-à-dire que c'est un personnage que tout le monde connaît, les gens s'intéressent à cette personne, et hop, ça fait un film. Tu vois, très grossièrement, attention. Hein, c'est...
Après, mais, je m'explique... Pardon, vas-y, vas-y.
Pardon, oui, mais tu vois, si j'avais trouvé ce chiffre-là, c'est-à-dire que dans toute l'histoire des Oscars, depuis que ça existe, dans la nomination et les catégories meilleurs films, il y en a un tiers qui sont des biopics. Mm. Dans toute l'histoire des Oscars, c'est... Si un tiers, on se dit que ça va. Non, c'est quand même énorme.
Ouais, c'est énorme.
Donc ça a toujours été populaire et important dans l'industrie cinématographique.
Oui, bah après, quand je dis regain de popularité, je m'explique, c'est par rapport à la fréquence de films qui sortent. On
va
plus dire ça comme ça, forcément qu'auprès du public, de connaître la vie d'une personnalité connue ou d'une personnalité qui a changé le cours de l'histoire ou fait des grandes choses pour son pays ou pour un pays extérieur, forcément ça, c'est intéressant pour tout le monde. Ou au moins pour une grosse partie du public. Du coup, forcément, par rapport au public, ça a toujours été plus ou moins populaire. Mais on constate quand même que depuis les années 2010, il y a quand même une grosse, grosse fréquence de biopics qui sortent. Alors après, je ne vais pas balancer un chiffre au hasard, mais il y a quand même, ça sort quand même au moins tous les ans. On a au moins un film biopic. Et du coup, c'est intéressant. Je pense par exemple à House of Gucci, encore même l'année dernière. Enfin, ça sort quand même assez souvent.
Et oui, mais après, je sais pas, c'est quoi vos références en biopic exactement? C'est pas une liste, mais quelques films qui vous ont vraiment marqué.
Le Fondateur.
Ok, ça parle de quoi?
C'est un biopic sur Ray Kroc et plus généralement sur la création de McDonald's.
Ah, donc
c'est
oui.
Pour le coup, c'est très actuel, enfin avec l'actualité, et c'est très intéressant et surtout, parce que moi j'aime bien les biopics dans le sens. D'un côté documentaire, dans le sens où on apprend des choses. C'est pour ça que c'est la partie du biopic qui m'intéresse. Et pour le coup, Le Fondateur, on est en plein dedans.
Ouais.
Ok.
Le Fondateur comme Melvin. En fait, moi j'ai trop de références en biopic, c'est un enfer.
Excuse-nous, mec.
Non, mais je veux dire que j'ai trop de films que j'adore dans les biopics. Mais bon, allez, je vais en citer.
Tu penses citer plusieurs. Hein,
oui, je vais en citer trois, on va dire. Le premier, c'est Social Network de David Fincher. Donc qui retrace la création jusqu'à l'apogée de Facebook et jusqu'au procès de Mark Zuckerberg. C'est moins drôle comme mot d'un coup. Donc il y avait Le Fondateur et si je devais en citer un dernier, j'étais entre 8 Mile et Imitation Game, mais bon voilà. Enfin, on va choisir Imitation Game. Donc pour ceux qui connaissent pas Imitation Game, c'est sur l'histoire d'Alan Turing et de la façon dont la machine à coder des messages des Allemands pendant la guerre a été craquée et a permis aux Alliés de gagner la guerre. Oui. Donc voilà, le biopic, c'est vraiment un genre hyper hyper riche où on a vraiment de très belles pépites. Oui. Et du coup, voilà mes références.
Et puis, oui, pardon.
Oui, j'allais dire, donc il y a ces films comme Le Fondateur ou Social Network, c'est vraiment de côté documentaire. Mais j'allais dire, par exemple, The Lost City of Z, qui est aussi un biopic. Là, on est dans l'aventure ou Gold, qui est moins connu avec Matthew McConaughey, ça reste pas de l'aventure non plus, ça s'en rapproche. Donc il y a plein de genres différents dans le biopic aussi, c'est très variable.
D'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc. Vas-y. On parlait en off des biopics sur des personnages fictifs. Je crois, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button.
Mais du coup, est-ce que c'est un biopic?
Oui, alors ouais, ça, on ne sait pas
trop. Ouais, c'est ça la question.
C'est ça, et si vous, techniquement, oui, c'est faire les biopics de personnes, de héros. Ça, techniquement, ça peut être ça. Tout ce qui est les 12 travaux d'Hercule, ce genre de choses.
Oui, c'est vrai.
Mais du coup, tout est biopic.
Ouais, au final. C'est vrai.
Je pense, en fait, la frontière est assez mince parfois entre l'histoire, le biopic.
Oui, c'est vrai.
Mais je pense quand même que le biopic a une fonction quand même très ancrée dans le réel. Je pense que c'est plus...
Par exemple, Blonde, là, sur Netflix, c'est un biopic, mais fictif. Enfin, c'est moitié vrai, moitié faux.
C'est romancé, quoi.
Voilà, mais c'est un biopic.
J'ai pas vu, mais il me semble que c'était plus, ça se concentrait plus sur les problèmes qu'avait Marilyn.
Ouais, mais les trucs n'étaient pas forcément vrais, en fait. C'était très romancé.
Il y a beaucoup de liberté qui m'était prise.
Ça.
Donc bon, ouais. À chacun comme il veut.
En référence de biopic, là aussi, c'est un mélange qui est un peu fourre-tout. Il y a évidemment Le Vent s'élève de Hayao Miyazaki, qui est un biopic très libre, attention, très libre d'un gars qui s'appelle Jiro Horikoshi, et qui était un ingénieur aéronautique au japonais, et qui a... sans le vouloir, révolutionner l'industrie de l'aviation, mais en fournissant du coup des armes extraordinaires à l'armée japonaise, et du coup il a un peu perdu le contrôle sur son invention. C'est vraiment magnifique, un des plus beaux Ghibli, un de mes préférés personnellement. Et sinon, il y a La Mule de Clint Eastwood.
Oui.
Un de ses derniers.
C'est l'avant-dernier.
Oui, un de ses derniers.
C'est l'un de ses derniers en tout cas.
Cry Macho, c'est le dernier, je crois.
Ouais. Qui raconte une toute petite partie de la vie d'un gars qui s'appelle Léo Sharp. Et qui, en fait, a été une mule, donc c'est-à-dire qu'il transportait de la drogue pour différents clients d'un coin du pays à un autre pour subvenir aux besoins de sa famille et, on nous demande dans le film, de sa petite communauté villageoise.
Mais Clint Eastwood, c'est un peu le roi du biopic, quand même. Il en fait quand même très souvent, surtout ces dernières années.
Ouais, il avait le cas Richard Jewell aussi. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est du bon, hein.
Oui, même J. Edgar, je crois que c'est lui, non?
Non.
Non, je crois pas. C'est parce que Scorsese.
Ouais, c'est possible.
On raconte n'importe quoi.
Ouais, on va se faire insulter. Non, mais.
Mais en tout cas, oui, ta question sur.
Si, Eastwood, t'as raison.
Oui, voilà, il me semble.
T'avais soulevé un point assez intéressant, c'est sur le fait que il y a des choses qui ne sont pas vraies dans les biopics. Mais en même temps, le cinéma, c'est un peu déjà, le cinéma, c'est une industrie qui raconte jamais la réalité. C'est toujours romancé pour le spectacle, le divertissement. On va très peu au cinéma pour se faire une instruction historique, par exemple. C'est plus quelque chose qui sert à nous introduire quelque chose. Ensuite, on fait nos propres recherches. Surtout dans un monde aujourd'hui où toutes les infos sont disponibles rapidement.
Après, il y a quand même des biopics qui restent très très fidèles aux vies des personnes. Alors, il y en a qui prennent plus ou moins de liberté, mais quand je pense à Rocketman, par exemple, c'est quand même un biopic qui est quand même assez fidèle, comparé à, si on veut faire le contraste, avec Bohemian Rhapsody, par exemple, qui est...
C'est juste nul, c'est tout.
Oui, mais même, il y a des choses, le plot twist, par exemple, de Bohemian Rhapsody, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé, du coup, quand tu centres ton film là-dessus, c'est un peu idiot, je pense, mais... Il y a des réalisateurs qui restent quand même très très fidèles aux histoires. En fait, des fois, les histoires des personnages sont tellement incroyables qu'au final, il n'y a même pas besoin de romancer autour ou même de créer une autre histoire. Enfin, mais
bien sûr,
c'est vrai qu'il faut garder ça à part aussi un peu de liberté, je pense, par rapport aux scénaristes et aux réalisateurs. C'est toujours intéressant d'apporter des petites différences où ça permet d'enjoliver, on va dire, un peu le récit.
Et à l'inverse, des fois, il faut enjoliver. Par exemple, Cléopâtre, c'est des trucs tellement loin qu'on peut pas faire une histoire fidèle. Enfin, c'est possible,
c'est pas possible.
Non, mais c'est pas. On a des sources ou quoi, mais je peux jamais faire quelque chose de très vrai. Donc, forcément, faut romancer.
C'est ça.
Oui. Ou alors, si on veut faire quelque chose de très vrai, à un moment donné, ça va durer peut-être 25 minutes. Mais on va dire que oui, il faut quand même créer des choses autour pour les personnages où on n'a vraiment pas beaucoup d'informations.
C'est sûr, si tu veux faire une histoire, si tu veux raconter la véritable vie de ton personnage, tu fais un documentaire. Mais si tu veux raconter une histoire à travers le cinéma, c'est sûr, il y aura toujours des éléments fictifs, mais il ne faut pas non plus exagérer. Tu disais toi-même, il y a des gars qui ont eu une vie tellement extraordinaire que tu peux ne jamais mentir, ça fait un film absolument incroyable.
Oui, voilà. Oui.
Donc c'est pour vous un biopic, ça doit forcément être dans tout le temps dans la vérité, ou ça peut prendre des libertés? Vous en pensez quoi?
Ça dépend de comment est vendu le biopic.
C'est-à-dire
si on vend le biopic comme la vie de d'une telle personne, mais vraiment toute sa vie, tout, je m'attends à quelque chose de vrai. Maintenant, si, comme je vous disais, le The Lost City of Z, où c'est la vie de quelqu'un qui va juste faire chercher une population indigène, par exemple, bah là, on peut romancer, parce que sinon, c'est un peu long, il ne se passe pas grand-chose. Tout ça dépend vraiment du genre de biopic. Genre, le fondateur, je m'attendais vraiment à quelque chose de vrai. Je veux pas qu'on me mente sur McDo, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à
romancer autour de
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Même si ça allait peut-être, on ne sait pas. Mais...
Moi, je rejoins Melvin là-dessus. Oui, voilà, en vrai, ça dépend. Même si, pour moi, un biopic qui vraiment prend toutes les libertés possibles et s'éloigne vraiment de l'histoire originale, je trouve ça pas forcément utile. Ça peut être très pertinent. Mais je reprends l'exemple de Bohemian Rhapsody, histoire de bien appuyer dessus. je me rappelle encore des bandes annonces, ça a vraiment été vendu comme l'histoire de Queen, alors que ça l'est absolument pas. Et du coup, c'est pour ça que ça peut vite... Voilà, ça dépend de la manière dont on le vend, en fait. C'est très mauvais si c'est vendu comme l'histoire hyper fidèle et que ça prend des libertés partout. Mais si c'est vendu vraiment comme une fiction, comme l'a été Blonde, par exemple, Ça s'est jamais revendiqué l'histoire à la lettre de Marilyn Monroe. Voilà, ça peut faire des bons films.
Parce qu'après aussi, il y a des histoires vraies qui en fait n'en sont pas. Tu regardes. Je digresse un peu, mais sur les massacres à la tronçonneuse ou Fargo, on te dit inspiré d'une histoire vraie. Plus ou moins. Hein,
ouais, attention.
Pour le coup, Fargo, ça l'aime même pas du tout.
Oui, voilà.
Pour le
coup, vois, Donc, effectivement, c'est la frontière entre le mensonge et la vérité, elle est toujours très mince et difficile à respecter.
Ouais. Et des fois, on peut juste pas le savoir, parce que c'est des trucs tellement inconnus qu'ils peuvent romancer autant qu'ils veulent. Moi, je vais faire « Ah, cool, j'ai appris un truc », alors que c'est pas vrai.
Bah, je sais pas si vous faites la même chose, mais quand je regarde un biopic ou un truc qui se passe sur un événement qui est censé avoir eu lieu, je vais toujours après sur le wiki ou sur Internet pour me renseigner un peu. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé ?» Tout ça, je vais me renseigner un peu. Et des fois, je vais découvrir des trucs où je me dis bah, « C'est dommage qu'ils aient pas adapté ça ». Et ou alors en mode c'est mais il s'est jamais passé ça, pourquoi ils l'ont mis?
Après, ouais, tu cherches 8 ans sur la page, mais je trouve pas.
Après il y a aussi des fois des échanges chronologiques. Quand j'entends par là, je pense aux biopics musicaux en particulier. Par exemple, les réalisateurs se permettent des fois d'avancer ou de reculer certains événements par rapport à d'autres. Je pense notamment à The Dirt sur Netflix, l'histoire de Motley Crue. Qui est un groupe de hard rock et par exemple ils se permettent dans le film d'échanger les sorties des albums etc pour essayer de mieux comprendre les problèmes qu'a traversé le groupe. Du coup des fois ça peut être pertinent, des fois ça l'est pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il faut garder quand même une part de liberté quoi.
Ok, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut enchaîner sur la suite. Je vais donc vous laisser avec notre pause musicale avec Elton John et Taron Egerton sur I'm Gonna Love Me Again.
So I'm
Et de retour pour la suite. Donc, nous arrivons en partie où nous allons donc vous présenter chacun un film qui est en rapport du coup avec un biopic. Et cette fois-ci, j'ai l'honneur de ne pas commencer et je laisse du coup la parole à Melvin. Alors Melvin, de quel film tu vas nous parler ?
Je vais parler de Bronson, sorti en 2008. Donc on reste quand même dans le film assez récent. Réalisé par Nicolas Winding Refn, que vous connaissez sûrement pour Drive, qui a aussi fait la trilogie Pusher. Il est dans le rôle de Bronson, Tom Hardy. Mm-hmm. Donc un film purement anglais, et donc ça raconte la vie du prisonnier Michael Gordon Peterson, dit Charles Bronson. Et je vais vous laisser vous dire votre avis avant, sur ce film particulier.
Eh ben écoute... Bronson, comment dire, il dure qu'une heure trente, et pourtant il y a des fois, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde.
Chez Nicolas Winding Refn.
C'est ça, parce que on parle, tu vois, quand même du gars qui est considéré comme le prisonnier le plus dangereux du Royaume-Uni. C'est pas rien. Mais ils ont pas réussi à le rendre. Ils ont réussi à le rendre aussi menaçant, tu vois. Mais déjà d'une manière qui est pas forcément très subtile. Bon, j'avoue, j'ai pas regardé des interviews de ce mec, s'il existe vraiment. Donc je sais pas s'il était vraiment comme ça dans la vraie vie. Mais j'avais vraiment l'impression de voir un très mauvais Joker. C'est genre, oh regardez, je te regarde dans le blanc des yeux. Je n'écline pas des yeux. Et d'un coup, j'éclate de rire et je redeviens sérieux. Tu vois, je sais pas si le gars est comme ça dans la vraie vie. Si c'est le cas, je suis désolé pour lui. Ça manquait un chouïa de subtilité, je trouvais. Et surtout, en fait, on fait une ellipse sur toutes ces années d'incarcération, alors que c'est genre le point du gars qui a quand même genre mené une révolte dans une prison. Et on te montre juste des images d'archives en te disant ah ouais, il a fait ça. Hein. T'as vu, c'est impressionnant. Allez, maintenant on passe à sa libération de 69 jours où il s'est rien passé. Donc, c'est dommage, un peu mal exploité, et dans le même style qu'ils ont voulu donner, en mode « Ah, regardez, c'est du spectacle, j'utilise plein de styles différents », j'ai préféré Turner dans ce style-là. Voilà.
Bon, alors, donc c'est à moi. Je oui. vais parler d'abord des gros points positifs, je trouve, du film.
Bon, alors, Mardi tout nu.
Voilà, déjà il y a Tom Hardy tout nu, et ça c'est super intéressant.
Voilà.
Tout nu.
Voilà. Non, mais en vrai, bon, comme la plupart des films de Tom Hardy, il livre quand même une grosse performance. Surtout sur. Je trouve qu'il est pas trop aidé par le cadre du film. En fait, pour la petite anecdote, c'est le deuxième biopic que je vois de lui. En fait, j'ai pas vu de film. Entre avec lui dedans, et le dernier film que j'ai vu de lui, c'est Capone, le film okay. qui a fait direct ou DVD. donc autant vous dire que c'est pas terrible, mais c'est même très très nul, mais il arrive à livrer une performance quand même impressionnante encore dedans. Du coup, je trouve bien cette capacité de Tom Hardy à fournir des performances qui sont dans tous les cas, une fois qu'il est pleinement investi dans un rôle, c'est impressionnant. Mm-hmm. Même dans Venom, qui sont des films très très nuls, il est quand même hyper bien.
Oui, mais j'aurais peut-être préféré qu'il s'investisse moins dans Venom quand même.
Ouais. Ensuite, il y a un énorme effort de mise en scène, je trouve, qui est fait. J'aime beaucoup. Il y a aussi un travail de la couleur quand même avec les
néons. Tu aimes les néons?
Oui, j'adore les néons. Et non, mais je trouve quand même que c'est un point positif, la mise en scène. Il y a quand même des efforts de fait. Maintenant. Dernier point positif, la relation que je trouve intéressante, c'est que Charles Bronson, du coup, donc le pseudonyme de Michael Peterson, se considère lui comme normal, alors que tout le monde le considère comme fou. Et du coup, je trouve intéressant d'avoir les deux perspectives là par rapport à ce personnage. Qui est quand même complètement taré quand on regarde, mais
oui, c'est ça. Il y a pas de débat en mode oui peut-être c'est sa façon de vivre. Non, c'est un taré.
Ouais,
c'est,
voilà.
Il y a pas de débat.
Il y a pas de oui voilà. On n'hésite pas trop sur la nature du personnage. Hein. Non, c'est bon. Il est complètement taré, mais lui il se considère comme normal. Et à un moment donné dans le film où il se fait interner dans un asile et lui il s'étonne, il est là mais comment ça se fait qu'on m'interne dans un asile. Mais je trouve ça assez intéressant. Et pour les points négatifs, je trouve qu'il y a un gros manque de rythme. En fait, il y a des moments où il se passe plein de choses. Il y a des moments où vraiment pendant 20 minutes, comme t'as dit Tom, le moment où il se fait libérer, en fait, le mec, il est là, il retourne chez lui. Et en fait, tu vois qu'il est complètement fou dans sa tête parce que, genre, des fois, il est passif pendant 2 minutes, il reste comme ça. Et il sait pas ce qui se passe.
Oui, c'est ça, c'est des moments de silence, en fait, mais qui n'apportent rien, tu vois.
Voilà,
c'est pas,
ouais.
C'est pas beau, y a pas un cas, t'admires rien du tout. Tu vois juste un mec chauve à moustache dans sa chambre, tu vois, c'est, et tu t'es fait, mais bouge, quoi, je sais pas, fais un truc.
Ça le caractérise.
Ouais, alors, le problème, c'est que si le film aurait fait 2h40 et se serait attardé aussi sur les événements hyper importants, j'aurais compris le manque de rythme ou ça aurait été vraiment volontaire, mais là, j'ai l'impression que, quand même, on voit vraiment qu'il a foutu le bordel dans le milieu carcéral, mais on voit pas vraiment les conséquences. Genre, le mec, il est juste transféré, machin, et bon, à part se faire tabasser la gueule.
C'est ça, on te dit, voilà. Ouais, j'ai zigouillé mes collègues, j'ai tabassé les gardiens, j'ai mené la révolte dans une prison, mais tu vois jamais, ou que en photo.
Ouais,
moi, je trouve ça intéressant.
Mais
le
après.
Fait qu'on voit vraiment que tout est centré autour de lui, et de ce qu'il dit, et il y a tout le parallèle, effectivement, donc il est fou, il est pas fou. Et qu'on voit jamais ce qu'il fasse, moi je trouve ça hyper intéressant. Après, je suis d'accord que oui, c'est long. Pour 1h30, on s'ennuie un peu, mais je trouve l'écriture pas mal. Mais après, c'est le Winnie Griffin, enfin Drive, c'est le même problème, quoi.
Oui.
Le mec, il a sa voiture et il conduit.
C'est le même problème.
Il conduit.
On peut faire d'ailleurs un parallèle là-dessus. C'est Bronson, ouais, c'est vraiment, t'es dans sa tête. Et s'il se passe rien dans sa tête, ben en fait, il se passe rien dans le film. C'est ça le.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, c'est volontaire, mais du coup, enfin, pour moi, c'est un souci quand même. Globalement, après, j'ai quand même aimé le film. Ça permet de toujours voir Tom Hardy qui
à poil.
Voilà. Alors déjà. Et non, mais puis voilà, ça permet de voir une belle performance d'acteur. Et globalement, j'ai quand même bien aimé, mais je trouve qu'il y a quand même mieux à faire.
Et alors, deux petites anecdotes.
Vas-y.
Sachez que Charles Bronson n'a pas pu voir le film. On lui a interdit.
Okay.
Voilà, mais il a dit que si sa mère aimait le film, alors il aimait le film. Et que le pressenti pour le rôle, il y avait Guy Pearce ou Jason Statham. Et franchement, en fait, je suis content qu'il y ait Tom Hardy finalement quand même.
Ouais.
Après, Jason Statham tout nu, j'aurais pas dit non, mais bon.
Mais du coup, le manque de subtilité.
Cela est un autre débat, je pense.
Ouais. Le manque de subtilité avec Jason Statham se serait vraiment fait ressentir pour le
coup. Oui, voilà.
Mais bon, voilà.
Mais moi, j'ai choisi parce que c'est un biopic original dans son sens, je trouve. Ça change d'une banale histoire de on raconte la vie, c'est vraiment fait différemment.
Ah, c'est sûr que c'est pas Cléopâtre, hein, c'est vraiment. Mais je vous comprends. Ok. Alors, du coup, toi, Lucas, tu vas nous présenter et nous parler de quel film ?
Alors, moi, pour ce mois-ci, donc pour les biopics, j'ai choisi de vous parler du Loup de Wall Street. Un petit film pas très connu, non c'est pas vrai, mais
il fait toujours la même vanne, hein.
ouais non mais vraiment
et le budget
et non, donc je vais vous parler du Loup de Wall Street, donc qui est sorti en 2013 et qui a été réalisé par Martin Scorsese. Est-ce qu'on le présente? Non.
Scorsese,
un habitué du biopic aussi pour le coup. Aviator, oui, voilà. Tout ça.
Donc avec Casino, Les Affranchis, Taxi Driver, Shutter Island, tout ça.
D'accord.
Le CV qu'on lui connaît. Donc pour le petit résumé officiel de Wikipédia, c'est donc sa licence de courtier en poche et les narines déjà pleines de cocaïne, Jordan Belfort est prêt à conquérir Wall Street. Ce jour d'octobre, un crash le plus important depuis 1929 vient pisciner ses rêves de grandeur. C'est finalement Long Island qui l'échoue et monte sa propre affaire de courtage. Son créneau, le hors-code, sa méthode, l'arnaque, et son équipe, des vendeurs ou des petits trafiquants. Donc, pour le casting, c'est avec Leonardo DiCaprio. Bon, voilà, vous connaissez les films de Leonardo DiCaprio. On va pas y passer la nuit. Jonah Hill, donc on retrouve dans War Dogs, 21 Jump Street et Le Stratège, que j'ai trouvé intéressant aussi. Il y a Margot Robbie, donc c'est un peu le film qui l'a fait connaître un peu à Hollywood. Donc,
c'est celle qui lui a fait exploser, il me semble.
Puis elle était toute jeune, non?
Donc, ouais, elle avait 23 ans,
voilà.
Il me semble. Et j'ai relu avant de...
La vache.
Et donc, qui est dans le tout nouveau et tout récent Babylon, Once Upon a Time in Hollywood et dans le futur Barbie. On a également John Bernthal dans le Punisher, tout
ouais,
ça.
Vite
tout
fait,
ça.
Hein.
Vite fait, mais ouais, il a quand même 5-6 scènes, mais bon, voilà. Jean Dujardin, parce qu'on est chauvin, et John Favreau, très vite fait aussi, mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même un joli casting. Donc, il y a à peu près tout pour faire un bon film, mais ça, c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, déjà, il y a Margot Robbie toute nue.
Oui. Et
ça, tu vois, c'était pas la peine de préciser.
Puisque c'est le thème de l'émission.
Nous sommes thème tout nu, voilà.
On a fait un épisode sur le nu.
Okay.
Le Alors moi, Partie Scorsese, je suis pas fan de base. C'est pas, j'aime bien Shutter Island, mais ses autres films, enfin, j'aime bien, mais sans plus. C'est pas mon truc. Plus les gangsters, bon bof. Et Le Loup de Wall Street, c'est mon préféré de Scorsese. Parce que ces trois heures qui passent comme une lettre à la poste, c'est hyper rythmé. C'est presque fun en fait comme film. Et il se passe tellement de trucs à la minute que non, j'adore ça. Et il a ce côté intéressant que je disais sur la bourse. On comprend. Parce que je pense à The Big Short, où j'ai toujours pas compris le film. Enfin si, j'avais compris le film, mais sur le coup, il fallait réfléchir pas mal sur le truc de la bourse, alors que Loup de Wall Street est hyper clair sur ce qu'il fait, alors que ça parle de la même chose. Et ouais, c'est superbement mis en scène sur la démesure de Jordan Belfort et tout ça. Et je retiendrai quand même la scène, parce que ça, je me lasse pas, du père de Jordan Belfort. Voilà, Mad Max.
Bien sûr.
Incroyable.
Et personnellement, j'ai trouvé que c'était une véritable dinguerie, hein, comme presque tout ce qu'a fait Scorsese, enfin, tout du moins de ce que j'ai vu de Scorsese.
Ouais, non, mais.
C'est une véritable dinguerie. D'ailleurs, en fait, si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire du cinéma, juste au cinéma en général, il fait partie des incontournables.
Ouais, il est à peu près partout.
C'est un incontournable.
Oui, voilà.
Et vraiment, ce film, et tu l'as dit, le rythme est extraordinaire, alors qu'il fait quasi presque 3 heures. Il fait presque 3 heures.
2h40 ou 2h50, je crois.
Oui, voilà, on ne s'ennuie jamais.
Ouais.
C'est rythmé. La mise en scène est fantastique. J'aime énormément quand il brise le quatrième mur pour qu'on soit complice de tous ses méfaits.
Ah oui, c'est vrai, dans son building.
À chaque fois. Et ça montre d'une manière formidable, je trouve, tous les cynismes et toute la tricherie qu'il y a dans ces milieux de la finance qui sont complètement déconnectés du vrai monde et qui pensent être vrais. Ouais, moi je suis super intelligent, je fais du business, regardez ça, je dépense des millions, moi je suis trop un fou, alors qu'ils ne sont absolument pas dans le monde réel, alors qu'eux ils le pensent vraiment.
Oui, mais ils lancent des nains.
Voilà. Non mais voilà, c'est
c'est l'image du film, c'est incroyable.
Non mais voilà, c'est la première image du film en fait. C'est
oui, c'est vrai.
Et du coup, d'ailleurs, ça me fait rire. Ça m'a fait rire au début. Ça a commencé par ce cliché cinématographique de ça, c'est moi. Vous vous demandez comment je suis arrivé ici.
Non, mais
laissez-moi vous raconter mon histoire.
Oui, mais c'est vrai que ça part sur.
Mais donc voilà, c'est vraiment un film absolument fantastique que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais vraiment du plus profond de mon âme.
Et qui ont plus de 10 ans.
Oui, minimum. Alors, c'est important à préciser aussi.
Attends, quoi ?
Qui ont plus de 10 ans.
Je vais crever. Ok.
Mais okay. Bon, alors, vous avez déjà parlé d'à peu près tout, le rythme et tout, bon, ça voilà. Je vais souligner juste 2-3 trucs pour moi. Déjà, la performance de DiCaprio, qui est quand même assez forte. D'ailleurs, il a été nominé à l'Oscar du meilleur acteur, je crois, cette année-là, mais je ne sais plus qui c'est.
Non, mais il l'a jamais, de toute façon. Donc.
Non, mais il a eu
Il a eu pour The Revenant.
Oui,
mais il n'y a pas un seul acteur qui a acheté à la poubelle. Il n'y en a pas un.
Ah, si. Jean Dujardin.
Alors,
non, il joue bien, monsieur.
Non,
connard.
Okay, non, okay, ouais, le doublage n'est pas terrible. Mais non, mais en vrai, non, mais ça va. Hey, commence pas, toi.
Oui, non, mais
commence pas.
Je chipote.
Mais il n'y en a pas un jeté à la poubelle.
Non, ouais, puis. Alors, ce qui est important de souligner aussi, c'est la fidélité du biopic. C'est que. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 100% des événements qui a dans le film, tout s'est passé. Genre, le lancer de nain, tout, mais de A à Z, apparemment, tout s'est passé. Donc, ça montre à quel point juste le mec a une vie de taré. Et ça me fascine les personnages qui ont eu ce genre de vie-là et qui s'en sortent. Déjà qui sont vivants, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Ils ne sont pas encore morts, c'est ça.
Et il faut savoir que ce mec, à l'heure actuelle, est libre. Donc, il est libre, genre, depuis, il me semble, je ne sais plus, mais début des années 2010, ou même bien avant. Juste, le mec a eu le temps de sortir un livre et de refaire du pognon encore. Enfin, c'est hallucinant.
Ce qui est très inquiétant sur le système judiciaire américain. Mais bon, ça, c'est. On va pas.
Et d'ailleurs, petite anecdote, il fait une apparition aussi dans le film. Oui, c'est lui le présentateur de conférence en fait à la fin. C'est lui, c'est le vrai Jordan Belfort qui a fait une apparition.
Du coup, qui a dû prendre un petit cachet,
voilà,
pour faire encore plus de sous.
Voilà.
Je comprends pas parce qu'il a attaqué le studio en justice pour récupérer 300 millions des producteurs.
Oui,
et ben voilà.
Ben parce qu'en fait, il a vu que le film, il a vu le réalisateur, il a fait OK, là il y a de la thune et voilà.
Oui, mais il l'a fait genre bien après, mais bon, bref.
Non, mais
c'est un mec de la finance, c'est forcément un trou du cul à un moment donné.
Voilà. Donc, exactement. Et aussi, du coup, je souligne juste le film est très drôle.
Oui, oui,
c'est vraiment, il est fun. Bien.
Ouais, le ouais, c'est vraiment
la scène de où il est sous drogue, il prend sa voiture et après on voit la vraie version, c'est hilarant.
Oh, mais ça c'est oh, ça c'est terrible.
Ah non, mais vraiment.
C'est terrible.
C'est quand en vrai quand on y pense, c'est DiCaprio qui a joué tout ça, même le côté un peu animal quand il fait ses discours à Stratton Oakmont et tout, c'est hallucinant. Le mec est fêlé complet quoi. Et du coup, dernier truc, c'est le message quand même critique de la démesure du film et jusqu'au boutisme du personnage. Genre, le mec est prêt à tout jusqu'à la fin. Et genre, même au moment où il se fait menacer par les fédéraux et qui dit vraiment, les fédéraux vraiment les menacent et ils disent, mec, vraiment, maintenant que tu vas prendre perpète, le mec, il est censé faire un discours pour partir de l'entreprise. Et au dernier moment, il décide qu'il reste et le mec pousse le truc jusqu'au bout. Et pour fêter non, ça, ils vont à Las Vegas et les mecs, ils font n'importe quoi. Enfin, bref. C'est franchement quand même abusé.
Je suis menacé. Coq.
Ah non mais vraiment. Et du coup bon après c'est ça fait partie de je pense de mes 10 films préférés donc enfin vraiment je peux que vous recommander le film.
C'est unanime je pense.
Ouais.
Voilà.
Alors pour les Oscars, c'est Matthew McConaughey qui l'a eu pour Dallas Buyers Club. Et alors, on parlait des biopics aux Oscars. Donc pour les acteurs, les films c'est quand même Dallas Buyers Club, American Bluff, Nebraska mais je connais pas, Loup de Wall Street, 12 Years a Slave. Donc t'as au moins 4 biopics quoi.
Il y a au moins 4 biopics. Ouais,
quand je disais que c'était énorme les biopics au cinéma,
oui.
Voilà.
Bah encore cette année avec Austin Butler et Elvis. Donc et même je crois qu'il y a Miractrice Kate Blanchett avec Tar aussi je crois, qui est aussi un biopic.
Mais je crois que c'est un biopic légèrement détourné.
Enfin, c'est omniprésent quoi.
Très bien. Bah du coup moi je vais vous présenter du coup ce dernier film cette fois je vais vous présenter un film italo-franco-almano-brésilien qui s'appelle Le Traître et qui est sorti en 2019 et qui raconte en fait la guerre interne à Cosa Nostra, donc la mafia italienne dans les années 80. Et donc on va suivre le parcours, une partie de la vie d'un gars qui s'appelle Tommaso Buscetta qui va partir au Brésil et qui va, pour sauver sa peau et sa famille, complètement collaboré avec le juge Falcone qui va permettre donc d'emprisonner des dizaines et des dizaines de mafiosi. Voilà, c'est une histoire vraie, ça aussi. Complètement. Donc le réalisateur, c'est un gars qui s'appelle Marco Bellocchio. Donc c'est un cinéaste italien qui est surtout très connu en Italie. Hein. C'est leur production cinématographique, c'est comme en France, c'est très connu chez eux. C'est un peu de mal à s'exporter. Et donc, il est sorti son premier long métrage en 1965. C'est Les Poings dans les Poches. Il en est à 27 films aujourd'hui. Il est encore très actif. Hein. Il a fait un espèce de film documentaire qui s'appelle Marx peut attendre en 2021. Au cas où c'était pas clair, c'est un cinéaste qui est assez engagé. Hein, ouais. Voilà,
effectivement.
Les Poings dans les Poches, donc son premier film, ça s'attaque à la cellule familiale très traditionnelle italienne. Son film le plus connu qui s'appelle Le Diable au Corps, ça doit peut-être vous dire quelque chose, qui va parler des Brigades Rouges et évoque très ouvertement la sexualité chez les ados, alors que l'Italie reste encore très puritaine là-dessus,
surtout
à cette époque. C'est ça. Le Sourire de la Mer, c'est un film qui va gêner le Vatican, parce que c'est un athéiste qui va se retrouver à devoir faire canoniser sa mère, donc tu vois, voilà, ça va un peu gêner. Et, ou alors Vincere, un film des années 2000, c'est un biopic, là encore, mais sur la maîtresse de Mussolini. Donc, voilà.
Ouais,
c'est...
le mec aime bien se mettre dans la mouise, quoi.
Voilà, il aime bien remuer
tout ça. Ouais, taper où ça fait
mal. Public.
Mais c'est quelqu'un qui est assez reconnu. Hein, il a remporté des prix à Cannes ou à la Nostra de Venise, quand même, pour ses films. Et donc, en acteur, on a, dans le rôle de Tommaso Buscetta, Pierre Francesco Favino.
On va avoir une liste là.
Ah, je suis désolé. Hein, c'est un acteur italien depuis qui a commencé sa carrière en 1997 avec un film qui s'appelle Le Prince de Hombourg.
Mais là, c'est connu cet acteur. Voilà, sa tête me revient.
C'est ça. Et il a une tête assez connue, surtout en second rôle et en rôle tertiaire. Mm. Il se fait vraiment remarquer avec le film Elle à la Mine en 2001. Mais du coup, j'ai sur la liste de ses films, j'ai noté quelques petits rôles. Il, c'est lui qui joue Christophe Colomb dans La Nuit au musée.
Voilà, il me voilà. Semble.
Il joue l'inspecteur Olivetti dans Ange et Démon, donc la suite de l'horrible Da Vinci Code.
Qui est horrible aussi, Ange et Démon.
Je ne sais pas, je me le suis pas infligé.
Non, mais te l'as
Dans Le Monde de Narnia, le prince Caspian, il joue un certain général Gloselle.
Ah oui, il est même italien dans Narnia, quoi.
Général Gloselle, voilà, ça va, t'es content. Mais par contre, dans World War Z, il joue Dr. Wu. Je vous laisse avec cette information.
Mais non, mais oui, parce que j'ai regardé un peu jouer, parce que sa tête me revenait quand j'ai vu la New Music, World War Z et tout. Voilà, je me souviens pas de ce mec.
Il est un peu connu dans ce genre de rôle-là, ouais. Tu vois, mais sinon, c'est un grand acteur italien du moment. Ensuite, nous avons Maria Fernanda Candido, donc, qui joue l'épouse de Tommaso, qui a un rôle quand même assez important. Qui, elle, ça va, elle n'a pas eu une carrière très énorme. Son premier film, c'est Le Traître. Et sinon, son deuxième, c'est un rôle tiers dans Les Animaux Fantastiques, Le Secret de Dumbledore.
D'accord.
Wow.
C'est, si ça vous dit Vicenta Santos, si ça vous dit quelque chose. Non. Voilà. Ensuite, nous avons Luigi Lo Cascio qui joue Totuccio Contorno. Donc, c'est celui, le Sicilien qui ne parle pas italien, qui est donc le deuxième à collaborer. Qui, pareil, hein, c'est acteur très italien, il existe depuis les années 2000. Donc, il est très connu qu'en Italie, hein, Les 100 pas, Nos meilleurs amis, Une histoire italienne, c'est que des films sociales italiennes. Donc, on ne va pas le connaître par chez nous. On a ensuite Fabrizio Ferracane, qui joue donc Pippo Calo, celui qui a les lunettes et à qui on confie les fils de Tommaso. Voilà. Qui lui est un acteur de théâtre surtout, qui travaille très peu pour le cinéma, et là aussi très centré sur le cinéma italien. Et enfin, Fausto Russo Alesi, qui joue le juge Falcone, donc, qui a déjà collaboré avec Bellocchio plusieurs fois, parce qu'il a joué dans 3 autres films, dont Vincere, où c'est lui qui joue Mussolini, je crois. Donc voilà. C'est un film vraiment que j'ai choisi déjà parce que, pour une fois, il change. Il est vraiment pas connu. Parce que, il marche pour un film avec ce genre de budget, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le Loup de Wall Street, loin de là. Et surtout, en fait, ça oblige à avoir une caméra vraiment toujours à hauteur d'homme. Ce qui est très immersif dans ce genre d'histoire, je trouve. Et les acteurs envoient du pâté, c'est assez émouvant. Quand tu vois certaines images d'archives, avec notamment la veuve du chauffeur qui est mort lors de l'assassinat du juge Falcone, tu vois, ça te prend un peu les tripes. Et t'as des choix de mise en scène qui sont super intéressantes. Ou par exemple, tu as le personnage de Totorina, qui a été genre le big boss de la mafia italienne dans les années 80-90, qui a un rôle, mais important dans l'histoire italienne, qui en fait ne prend la parole qu'au bout de 2 heures de film, tu vois, pour une fois, et alors que tu le vois tout le temps. Donc voilà, je trouve ce film vraiment super intéressant. Et du coup, vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'italien tout nu, non, j'ai bien aimé.
Tu fais une fixette, toi.
Ça aurait fait les 3 mousquetaires, là. On serait fait.
J'ai bien aimé, parce que déjà, j'ai aimé les films de procès, donc toutes les scènes de procès.
C'est faux, il y a des Italiens tout nus, c'est juste que t'as pas vu le film. Voilà.
Je suis en train de réfléchir, du coup.
si. Bref, on sait une autre histoire.
J'ai eu un petit moment, du coup.
Alors, oui.
Donc, ouais, j'aime beaucoup les films de procès de base, donc toutes les scènes de procès, moi, j'adorais ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. L'histoire est intéressante, parce que c'est quelque chose du coup que je ne connaissais pas du tout. C'est donc de ce point de vue là ça a vraiment un côté intéressant et enrichissant, mais j'ai pas pu m'empêcher de le trouver long quand même. 2h30 là où Loup de Wall Street fait, j'ai vérifié, 2h59 en laissant pas passer. Là, les 2h30 à la fin, je fais ah, oh, c'est terminé, cool. Et, oui, c'est le reproche que j'ai vraiment, voilà,
il prend son temps pour instaurer une ambiance.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment après il prend son temps et l'ambiance, mais il y a j'ai l'impression que c'est vraiment complet comme film.
Ça, il prend son temps pour des bonnes raisons, contrairement à Bronson, tu vois.
Pourtant, c'est immersif, Bronson.
Ouais.
Ouais.
Mais ouais. Non, voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus coup de cœur. Mais je suis content de l'avoir vu, dans le sens que déjà, c'est un film italien, donc ça change.
Oui.
Je m'ouvre à autre chose. Et oui, ça reste intéressant sur tout ça. Mais voilà, et puis les trucs de mafieux, c'est toujours pas mon truc.
Mmh. Et toi ?
Alors moi je trouve ça intéressant, bah, comme dit Méline, bah, c'est un film italien et que ça change. Dans le sens où vraiment c'est pas le genre de truc que j'aurais été voir par moi-même.
Bah, c'est sûr qu'on s'est beaucoup focus sur le cinéma américain et français, quoi.
En fait, pour tout vous dire, genre au départ, quand j'ai regardé un peu le truc et tout sur internet, le résumé, tout ça, je me suis dit putain, c'est une vieille production de Netflix à la con. Et en fait, pas du tout, ça a rien à voir déjà.
Je vais te calmer tout de suite.
ça a rien à voir. Et, mais je sais pas, ça fait production Netflix un peu comme les films qui sortent pas.
Le genre de film qui passe inaperçu.
Ouais, voilà,
c'est la colorimétrie, c'est la couleur de la fiche.
Ouais, même, ouais, voilà,
ça,
c'est ça.
Tu vois, mais sinon, non, rien à voir.
Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, parce que ça change, aussi parce que on voit quand même le fil conducteur du film. Ça part vraiment d'un point A et ça atterrit à un point B. Ça, c'est bien démarré, c'est bien fini. J'ai trouvé intéressant aussi le procès. Le fait que le procès soit un énorme bordel, ça a été bien retranscrit, j'ai trouvé.
Ça, parce que c'est, si je l'aurais dit, mais c'est vraiment une histoire vraie. C'est-à-dire que le gars qui se coule la bouche pour pas parler, c'est un vrai truc. Mm. Les gars qui font chier parce que, mais si, je fume le cigare, c'est médical, ou qui gueule, tout ça. Le juge qui pète un câble, c'est vraiment arrivé. Tu vois, donc c'est.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est assez fidèle. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Je suis désolé. C'est très bien retranscrit. Tu parlais de l'ambiance. De la façon dont c'était retranscrit, que c'était bien fait.
Ouais, c'est voilà, c'est quand même je trouve que la scène du procès est quand même c'est très bien fait, ça prend quand même une grosse partie dans le, enfin pas une grosse partie dans le film, mais quand même ouais, une bonne 45 minutes, je pense. Mm-hmm. Sachant que c'est coupé entre le moment où il repart au Brésil ou machin ou truc,
c'est ça,
et voilà.
Il y a plusieurs procès en plus.
Il y a plusieurs procès, je crois que c'est sur l'histoire de même 10 ans, un truc comme ça, hein, quasiment.
Oui, c'est ça, ça commence en 87 et ça se finit, tous les gros procès se finissent genre en 91, tu vois, donc c'est...
Ouais, c'est quand même intéressant, à suivre, et ben moi j'adore les films un peu de gangsters, tout ça, les gros classiques comme Casino, Les Affranchis, tout ça, j'ai quand même découvert...
Scorsese, quoi.
Ouais, non mais même pour citer Public Enemy tout à l'heure, c'est voilà les films de gangsters qui touchent un peu à la mafia, tout ça j'aime bien. Et du coup ça a fait l'occasion de découvrir un film très sympa, c'est pas non plus extraordinaire, mais mais voilà, ça change et ça a le mérite d'accomplir ce que ça prétend au moins, et c'est très sympa. Voilà.
Mais surtout, ce qui est bien, c'est que on n'essaye pas d'en tirer une rédemption du personnage. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas, c'est comme dans Les Affranchis. Tu vois, le personnage principal, il regrette pas ses actes. Il regrette juste de s'être fait choper. Tu vois, c'est tout. Parce que le gars, sinon, il dit non, moi, je suis vraiment mafieux. Je suis à la Cosa Nostra. Moi, je suis fidèle. Je suis un homme d'honneur. Enfin, tu vois, c'est.
Ouais, ça. Oui, c'est vrai.
Ça reste là-dessus. Et d'ailleurs, on voit aussi comment il est traité au Brésil. C'est-à-dire que malgré toutes les saloperies qu'il subit pour qu'il parle au Brésil, il lâche pas un mot pour dire à quel point, quand même,
il est
investi dans son truc.
Voilà. Ça montre que le Brésil est le pays des droits de l'homme, notamment.
C'était la mode à l'époque. Vous renseignerez sur l'opération Condor, c'est très intéressant. Bref.
Non, mais ouais, voilà, c'est... Oui, c'est
du coup, vrai. Vous le recommanderiez quand même ou pas ?
Ouais, oui. C'est...
Ne
ça fait découvrir autre chose.
Voilà, ne serait-ce que pour la découverte.
C'est ça. Pour dire à quel point il n'est pas connu, il n'y a pas de doublage français. Hein. C'est vraiment...
Je l'ai vu en VO.
Si,
oui,
moi je l'ai vu en français.
C'est VO, hein. C'est VO sous-titré. Hein.
Moi, je l'ai vu en français.
Quoi ? Comment tu fais ?
Eh bien, je vais te trouver un petit site. Il était en français.
Ça a été... Moi, je l'ai vu qu'en VO. Eh ben, moi, je regarde sur un site en fait où j'ai tous les films en VO. Du coup, je me pose pas la question.
Donc, attends, toi, tu l'avais en VF. Toi, t'as pas vu les sous-titres et moi, j'ai vu en VF.
Si,
je t'ai fait.
Ah, ok.
Non, moi, j'avais VF. Bon. La VF était pas dingue, mais ça allait. C'était passable. C'était des bonnes paroles.
Okay. Ouais.
Ça me parlait pas d'autre chose, quoi.
Ouais. Bon, je vais faire mon weeb italien, ouais, mais tu comprends
l'intonation des voix, tout ça.
La VF, elle a détruit les intentions, les vrais acteurs, tu vois. Pardon. Enfin, bref. Bon, bah, je pense que c'était une bien bonne émission.
Ouais, alors, moi, j'aimerais pour conclure, parce qu'on n'a pas parlé en fait, je me suis rendu compte en parlant des films,
vas-y.
Les biopics, ça tient quand même sur leur acteur principal. On n'a pas parlé au début, et c'est vrai que les trois films qu'on a là, Ouais. Ça tient bah, sur Tom Hardy, DiCaprio et
l'autre.
voilà, Giuseppe.
Pier Francesco Favino.
Voilà, ce mec. Et ouais, le biopic en fait, ça tient exclusivement, enfin beaucoup sur le. Si tu mets un acteur principal nul, bah bof quoi. Mm-hmm.
Et voilà. Oui, c'est vrai. Genre, que si Bohemian Rhapsody.
Non, en vrai, Rami Malek était bien.
Bon. Ok. Oula, arrêtez de vous battre les enfants.
Non mais ouais, en parlant des films, ça me fait tilter en fait. Mais en fait, cet achevant, on dit l'acteur principal très bon. Mm. Voilà.
Ok. Bah oui, c'est une bonne remarque. Bon, avant de passer du coup vraiment à la toute fin, on va vous recommander du coup quelques films qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, peut-être qu'on a pu voir ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que vous voulez recommander?
Alors moi j'en ai trois.
Vas-y, commence.
La première, on va rester dans le biopic, c'est The Wrestler de Darren Aronofsky. Mm-hmm. Donc sur ce Ram ou le Bélier en français, joué par Mickey Rourke. Donc c'est une partie de la vie de. C'est un ancien catcheur et on suit sa vie 20 ans après. Alors au début j'étais là, mais il se passe pas grand chose en fait, mais c'est la mise en scène, je la trouve vraiment bonne, on s'attache au personnage, c'est vraiment un film que je peux conseiller. Surtout si comme moi vous ne connaissez rien au catch, c'est assez instructif. Mm-hmm. Après j'ai vu Moulin Rouge,
okay.
Et ça déboîte aussi, de Baz Luhrmann, donc le mec qui a fait Elvis l'année dernière. Bon ça faut s'accrocher, faut pas manger devant, parce que ça va vraiment à 1000 à l'heure, et c'est très intéressant de sa manière d'être faite. Et sinon le coup de cœur de l'année pour le moment, Babylone au ciné.
Ouais, qui vient tout juste de sortir du coup.
Voilà, qui est sorti la semaine dernière. Et non, vraiment, vraiment très bon. Je peux que vous conseiller. C'est 3 heures, mais 3 heures, ça passe en 2 heures. Quoi. Mm-hmm. Et c'est particulier, c'est pour ceux qui. Faut aimer le cinéma. Si on aime le cinéma, c'est encore mieux. Mais ouais, vous pouvez y aller au moins pour découvrir.
Ok. Toi, du coup, Lucas, tu veux nous recommander quoi?
Alors, du coup, moi, je découvre pas mal de films en ce moment. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, je peux que vous recommander, mais bon, ça commence vraiment à se propager, c'est Glass Onion.
Il faut que je
vois. Oui.
Voilà. Mm-hmm. Donc, qui est la suite d'À couteau tiré. Et vu qu'À couteau tiré, c'était très bien. Et bien, Glass Onion, c'est très bien. Mm-hmm. Donc, foncez si vous aimez les films d'enquête, les films, j'allais dire d'énigmes, mais où il y a une intrigue assez pesante, où il faut vraiment chercher de soi-même, etc. C'est quand même assez sympa. J'ai découvert le classique, mais que je connaissais pas, c'était Whiplash.
Mmh. Il y a plein de classiques qu'on n'a pas vu. Hein,
oui, voilà. Donc Whiplash avec Miles Teller et J.K. Simmons, du coup. Donc qui est un film sur le jazz et sur un batteur qui veut s'imposer dans le groupe du plus grand professeur de la plus grande école des États-Unis.
Okay.
Donc c'est super intéressant. Et en troisième, je sais pas trop. On va essayer de redorer un peu le blason de Nicolas Cage avec 60 secondes chrono. Que j'ai découvert aussi ce mois-ci.
Ah, ok.
Je pensais pas à celui-là quand même. Redorer le blason de Nicolas Cage.
Ok.
Bon, après, si tu veux, il y a.
Il y a vraiment un blason redoré, vraiment.
Il y a. Comment ça s'appelle? C'est National Treasure en.
Benjamin Gates.
Voilà, Benjamin Gates. Mais du coup, bon, je vais vous parler de 60 secondes chrono. C'est un film sur un braqueur de voiture qui est tombé à la retraite et son petit frère a repris un peu le flambeau. Mais il se met dans le pré-train avec des personnes pas très recommandables et son grand frère fait son retour dans le business pour le sauver. Voilà, c'est assez intéressant. Okay. Et c'est tout pour ce mois-ci, j'ai vu d'autres trucs, mais bon, c'est pas très grave. Et toi, Tom?
Bah écoute, moi j'ai vu plein d'autres films, mais je vais vous parler de deux films étrangers encore. Je vais vous parler d'abord de Memories of Murder de Bong Joon-ho, donc celui qui a réalisé Parasite. Ça a été vraiment, c'était vraiment assez impressionnant où on cherche une. Ça raconte des événements qui se passent. On cherche un tueur en série dans une campagne sud-coréenne où les flics ils sont mais genre pas du tout éduqués, ils y connaissent rien. Et là, t'as le gars un peu scientifique de la vie qui essaie de trouver le coupable, mais ça, ils vont constamment galérer et tomber dans des impasses jusqu'au dénouement final que vous l'avez pas vu ou pas? Vous l'avez vu
non.
ou pas?
Non. Non, je voulais le voir.
Je ne dis rien. Je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est vraiment un très bon film policier coréen. Et aussi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle La Conspiration du Caire, qui est donc un film égyptien sorti cette année et qui raconte comment un jeune élève de l'école scientifique islamique d'Égypte va se retrouver malgré lui impliqué dans, dans un complot pour faire élire le grand émir d'Égypte, mais pour celui qui soit proche du gouvernement et écarter celui qui est favori et celui qui est proche des frères musulmans.
Okay.
Donc c'est aussi très intéressant. Ouais, ça montre un visage de l'Égypte actuelle absolument terrible, où donc t'as une corruption de flics, t'as aucune reconnaissance, et t'as la torture en prison, les contradictions chez les religieux eux-mêmes, tu vois, dans leur style de vie. C'est-à-dire que t'as justement le prêtre qui est proche des frères musulmans, qui dit en mode « oui, la femme doit rester au foyer », un homme doit être fidèle à sa femme, mais au final, t'apprends qu'il a fait un enfant dans le dos de tout le monde. Donc, tu vois, c'est... c'est vraiment très intéressant, c'est très bien, je vous recommande très, très chaudement celui-là aussi.
Ok. Voilà.
Bon.
Ouais.
Eh ben, c'était une bonne émission.
Ouais, c'était sympa.
Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Instagram à Temciné et Radio Campus Pau, bien sûr.
Il y a une application maintenant.
Et sur l'application Radio Campus Pau.
Voilà,
aussi.
Oui, c'est ça, n'hésitez pas à l'installer, ça va nous sortir sur Android.
Okay.
Ça permet d'écouter les podcasts ou même de lire les articles, tout ça, sur son téléphone. Sans forcément rester sur le site, etc. Donc ça renforce un peu l'accessibilité au podcast. Donc n'hésitez pas. Voilà.
Voilà, vous pouvez. N'hésitez pas évidemment à nous dire ce que vous pensez de l'émission sur nos réseaux sociaux. Hein. Ça nous ferait plaisir, ça nous guiderait. Et puis même si on n'est pas les plus présents sur les réseaux sociaux, on essaie quand même d'interagir avec vous.
Voilà.
Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine émission et vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.
Salut.
Salut.